Effectivement, j'aimerais bien qu'il y ait l'égalité et en même temps je traîne des pieds parce que mon égoïsme, mais que tu aimerais bien vraiment, mais que tu es ambivalent, tu vois. Tandis que je pense que même pas. Je pense que c'est vraiment que du baratin et qu'ils n'ont même pas d'ambivalence sur la question. Moi, j'ai pas vu trace d'ambivalence. J'ai vu que de l'égoïsme et puis du baratin. Voilà.
Il est 13h, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 11h pour un nouvel épisode de lundi matin. Restez à l'écoute, hein, ça va continuer sur Radio Libertaire. Et puis retrouvez-nous sur le site donc anarchiste.info, information, rendez-vous, streaming, podcast, toutes les émissions de lundi matin bien sûr que vous pouvez réécouter. Et puis rendez-vous sinon le 31 mars donc à la librairie Publico à partir de 15h pour la projection donc de Pride que je vous ai présenté tout à l'heure, et on sera donc ravis pour ceux qui le souhaitent de vous rencontrer bien sûr autour de cette projection débat. On va se quitter avec un groupe qui s'appelle Cutter et le Druide, une chanson sans mêlée, ni oubli, ni pardon. Au revoir, à la semaine prochaine.
Dans ces trams de métro, 11 novembre, date où combat Carlos Palomino, frère de combat tué par un militaire facho. Arrêté démocratie nationale, on était tout chaud.
Quatre camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinato. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo.
Les coups de la matinée, nos frères et sœurs, coups fatalien à Prague, Ivan à Moscou, mort de cette plus froide rafale.
Meilleur moment pour leur vie sous l'œil de l'État complice. Assassin Anastasia Pavlova, aidé par la police.
David Cesare, 2000-3000 ans, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute jusque dans les eaux.
C'est en sortant de chez lui que t'as battu Fyodor Filatov dans un concert antifa que s'écroule Alex Krylov.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Pardon, devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fâchés, jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Le meilleur hommage, c'est de continuer le combat, ni oubli, ni pardon, devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fâchés, jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Je vous rencontre dans cette station, une lame de 15 cm, perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qu'il a fait naître. Kodja Lukin pour son anniversaire est pris en traite, coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent, au cercle de la bourgeoisie, attaque ceux qui aident les sans-abri, s'en prennent à Timur Katjarava et ses deux amis, trop de morts encore pour Rodenko et Ryukin, 23 décès, 240 blessés, 2010 en Russie.
Retour en Italie, je débarque par les Drenato, créateur du label Rinoise, sphère de lance anti-facho, reggae alternatif, en faire péter la sono, antifax s'y fait planter, à coup de couteau dans le dos, je ne partirai pas aussi vite que la balle que marquait l'or par sous, en pleine tête, en plein jour, à Moscou et en pleine rue, défenseur des droits des opprimés, et des invaincus, malgré la répression, nous resterons toujours convaincus. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat, ni oubli, ni pardon. Devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fâchés, jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat, ni oubli, ni pardon. Devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fâchés, jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Le témoin Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris.
Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche, il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital.
à tous ceux et toutes celles qu'on a oubliées, ceux et celles que les brins ont et vont martyriser. Ziganes, hongrois humiliés, syndicalistes, colombiens tués, sympathistes persécutés, palestiniens enfermés, étrangers tout pays molestés, ethnies agressées, indépendantistes torturées, militants assassinés, peuples occupés, communautés exterminées. Nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni oubli, ni pardon.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste, c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Il y a quelques 6 ou 7 ans de ça, on ne savait pas encore trop où situer la pratique de la lobotomie dans l'histoire de la psychiatrie. Bon, depuis, on s'est un peu renseigné. Donc on la situe, le pic enfin de cette pratique se situe dans l'après-guerre 39-45, et bien c'est cet objet que nous allons affronter aujourd'hui dans l'entonnoir, la lobotomie. Bonjour Jean-Luc.
Salut à tous, toutes. Nous allons faire aujourd'hui un peu d'histoire de la psychiatrie, et comme on vient de vous le dire, plus particulièrement l'histoire des lobotomies, quelque chose qui enfin au moins à l'époque où l'auteur du bouquin dont on va vous lire des extraits concernant ce sujet, eh bien, l'avait écrit, disons que cet épisode restait dans une ombre certaine, et que soit on en parlait d'une façon pas très erronée, soit on n'en parlait pas du tout pour les historiens de la psychiatrie, et tout le monde se portait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, quelques petits extraits d'un ouvrage de Philippe Pignard qui a pour titre « Les malheurs des psys, psychotropes et médicalisation du social ».
Tiré de derrière les fagots de ta bibliothèque, Jean-Luc.
Oui. Donc, un ouvrage de 2006, qui date pas, qui est pas tout récent, mais quand on fait de l'histoire, Et pour commencer, quelques petits extraits, donc, du chapitre 6, intitulé « L'odeur rance du 19e siècle ». Donc, je n'ai pas parlé de Philippe Pignard. Pour les auditeurs tristes qui n'auraient pas entendu parler de lui, c'est quand même quelqu'un de très connu dans le milieu, on va dire ça comme ça, qui a écrit une foultitude de bouquins sur les médicaments psychotropes. En développant parfois des réflexions intéressantes. Alors, je commence. Une manière très particulière de raconter l'histoire de la psychiatrie dans l'après-Seconde Guerre mondiale s'est imposée comme allant de soi. Ce serait un moment glorieux que certains auteurs d'aujourd'hui opposent même à la période actuelle. De retour des camps nazis, des psychiatres se seraient rendus compte du caractère insupportable et iatrogène des hôpitaux psychiatriques, et ainsi serait née la psychothérapie institutionnelle. À compter de ce moment, rien ne ressemble plus pour eux à un camp qu'un asile, écrit ainsi Patrick Kupchou. Donc là, petite note, Patrick Kupchou, cet extrait d'un monde de fous. Comment notre société maltraite ses malades mentaux. Bon, Patrick Kupchou, on a beaucoup parlé, beaucoup travailler, exposer des éléments de ses ouvrages, notamment Un monde de fous. Il a même été invité, alors ne me demandez pas la date, mais il a même été invité à ce micro pour parler de tout cela. La note indique cette référence et puis ajoute: il n'est pas indifférent de constater que tous les témoignages que l'auteur, donc Patrick Kupchou, cite à l'appui de sa thèse datent de 1975 et participent eux aussi à la réécriture de l'histoire. Oui, ou plutôt à l'écriture d'une certaine histoire. Donc, je reprends. Le psychiatre et psychanalyste Jacques Hoffmann, ou Hoffmann, la prononciation exacte, on ne la connaît pas, écrit quant à lui, je cite, « Changer l'asile apparaissait donc comme une exigence humanitaire dans une société où, au sortir de la guerre et de l'univers concentrationnaire, l'aspiration démocratique, qui allait par ailleurs soulever les peuples colonisés et les minorités opprimées, se faisait de plus en plus sentir. » Fin de citation. Donc, ça c'est extrait de Jacques Hoffmann, l'histoire de la psychiatrie, c'est un que sais-je, en 2004. Je reprends le texte de Philippe Pignard. Dans un ouvrage collectif de référence, Étienne Tria écrit également. Pendant l'occupation, les Français avaient fait l'expérience individuelle et collective du grand renfermement. Le mot de libération prend alors une résonance très profonde dont les échos viennent ébranler les murs de l'asile. La libération du territoire se prolonge par la libération de l'asile. On savait depuis longtemps que l'hôpital psychiatrique était un hôpital d'aliénés, mais on n'avait pas pris conscience du fait qu'il était aussi un hôpital aliéné et que la société qu'il constitue, soignés et soignants confondus, était une société aliénée au sens où Marx parlait du prolétariat. Donc, citation d'Étienne Tria, tirée d'une histoire de la psychiatrie au XXe siècle. C'est un ouvrage collectif dirigé par Jacques Postel et Claude Quetel et qui est intitulé « Nouvelle histoire de la psychiatrie en 1994 ». On pourrait citer bien d'autres auteurs venus des horizons les plus divers. Ce thème, qui serait dû au psychiatre Henriet, principale figure de la psychiatrie française de l'après-guerre, ennemi des conflits et adepte des grandes synthèses, fait quasiment l'unanimité. Il n'est évidemment pas question pour nous de nier qu'un courant issu de la résistance, avec des personnalités comme François Toscaïès, Pierre Balvet ou Lucien Bonafé, a bien remis en cause, après la guerre, le modèle asilaire dominant. Mais, en réalité, ce courant est resté extrêmement minoritaire et n'a certainement pas modifié en profondeur les pratiques psychiatriques de l'époque. On pourrait rajouter, au passage, les pratiques psychiatriques de l'époque, ni celles de la suite. Malheureusement. Certains auteurs écrivent même que les hôpitaux psychiatriques ont commencé à se vider à partir de 1945. Cette légende est à juste titre combattue par Pierre Perron-Magnan, qui y voit une autre cause. Je cite « L'introduction en thérapeutique de la chlorpromazine, l'ergactyle, s'accompagne d'une chute très caractéristique du nombre des malades hospitalisés. Cette courbe se retrouve identique dans toutes les statistiques européennes. Cette relation causale linéaire qui réunit la chimiothérapie et l'évolution de la population hospitalière est niée par Henriet qui la rapporte au changement d'attitude psychologique des médecins des hôpitaux psychiatriques, retour en quelque sorte à une psychiatrie morale. Ce point de vue est insoutenable. » Fin de citation. Donc, de Pierre Perron-Magnan, donc tiré de l'ère moderne des thérapeutiques biologiques, toujours tiré de l'ouvrage collectif précité, dirigé par Jacques Postel et Claude Quetel. Le nombre de patients hospitalisés aux États-Unis était inférieur à 80 000 en 1900, supérieur à 200 000 en 1915, à 300 000 en 1930, à 450 000 en 1945 et atteint 530 000 en 1954. On peut expliquer ce phénomène par le refus grandissant des familles d'assurer la prise en charge des malades. Les troubles mentaux se déprivatisent, entre guillemets, ils doivent de plus en plus être assumés par la collectivité. C'est seulement avec la mise sur le marché du premier neuroleptique, la chlorpromazine, commercialisée en France en 1952, mais seulement en 1954 aux États-Unis, que la décroissance du nombre de patients hospitalisés commence et devient vite spectaculaire. Dès 1965, ce nombre repasse sous la barre des 500 000 et en 1975, il est en dessous de la barre des 200 000. En France, les chiffres correspondants sont introuvables. Les statistiques disponibles commencent beaucoup plus tard, ce qui n'aide pas au débat. Il n'en demeure pas moins évident que les psychiatres qui ont fait tourner les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre sont toujours en place à la Libération et que la proportion d'entre eux qui furent déportés dans les camps nazis est très faible. Il est donc un peu contradictoire, comme le font certains auteurs, de simultanément les accuser d'avoir laissé mourir de faim les patients des hôpitaux sous l'occupation et le régime de Vichy, constater qu'ils occupaient toujours les mêmes postes après la guerre, et nous raconter l'histoire d'une révolution institutionnelle liée à l'influence de la psychanalyse. On pourrait se demander pourquoi cette histoire mythique a été fabriquée. Je ferai l'hypothèse que tous les acteurs de cette période ont un intérêt à raconter les choses de cette manière. Aux psychanalystes, elles donnent le beau rôle. Ils ne sont plus seulement les créateurs d'une psychiatrie de ville, mais ils deviennent aussi les inspirateurs de la psychiatrie asilaire, celle qui s'occupe des cas les plus graves. C'est beaucoup plus glorieux et cela reflète sans doute le projet, un moment en vogue, d'une psychanalyse des psychoses. Cet épisode raconté ainsi illustre leur puissance, entre guillemets. Mais pourquoi les psychiatres aliénistes ont-ils eux aussi accepté cette version des choses? C'est qu'ils avaient quelque chose de honteux à cacher. Donc fin du chapitre, et donc on en arrive à ce quelque chose de honteux à cacher. Le chapitre est intitulé « L'épisode honteux des lobotomies ». Après la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont ni la psychanalyse des psychoses, ni la psychothérapie institutionnelle qui triomphent, mais la pratique de la psychochirurgie, plus connue sous le nom de lobotomie ou leucotomie. Les turiféraires de la psychiatrie libératrice de l'après-guerre vont jusqu'à passer totalement sous silence l'événement que constitue en 1949 la remise du prix Nobel de médecine à Egas Moniz. Ici, les dates sont importantes. Dans son histoire de la psychiatrie déjà citée, Jacques Hoffmann rapporte cet épisode, mais il le fait dans le chapitre qui précède la guerre et qui se termine par le rappel de la prise de pouvoir par Hitler en 1933. Plus un mot n'en est dit dans le chapitre suivant, qui commence avec une description de l'ambiance de la libération. Cela donne l'impression que les lobotomies appartiennent aux thérapies d'avant-guerre. Paragraphe suivant, une page effacée par les historiens français de la psychiatrie. Jacques Hoffmann est pourtant celui qui, dans un autre livre, a écrit en français les plus belles pages sur le sort de ses patients qui pouvaient avoir subi des opérations à répétition. Il fait partie de cette génération de psychiatres qui ont découvert ces patients transformés en loques humaines dans les hôpitaux alors qu'ils faisaient leur internat. Une petite note qui indique « Aucun travail de synthèse n'a été fait sur la pratique des lobotomies en France ». Mais nombre de psychiatres et psychologues qui ont commencé leur carrière à l'hôpital dans les années 60 témoignent sur ce point dans le même sens, dont entre autres Édouard Zarifian et Toby Nathan. Une longue citation permettra de mieux comprendre. Donc c'est une citation... Oui, voilà. Antoine naquit en 1906 dans une famille d'agriculteurs marquée par la maladie. Durant l'hiver 46, son caractère s'assombrit. Il a alors 40 ans, il vit seul, il est fatigué, il a froid. Il ressent des douleurs dans le dos qu'il attribue à une agression nocturne. On lui a mis par derrière une saloperie dans les reins. Puis un jour, il étrangle une poule en prétendant qu'elle porte malheur. C'est librement et volontairement qu'Antoine franchit le 21 février 47 les grilles de l'asile départemental. Le neuropsychiatre examine Antoine avec la passion du chercheur qui tient enfin sa découverte. Sur le délire, il passe vite. Après avoir disqualifié le délire, il remarque « Ce qu'il y a d'intéressant, ce sont les hallucinations que le patient présente. » Là, il saisit vraiment un signe clinique, une manifestation précise qu'il est possible d'isoler, de décrire, d'étudier, beaucoup plus rigoureusement que les vagues sornettes sur le vent et la Lune. Il est donc logique, conclut hardiment le neuropsychiatre, pour abolir ces hallucinations, de chercher par une intervention pariétale basse à abolir ou diminuer les sensations pharyngo-laryngo-bucco-labiales. L'intervention doit porter assez en arrière, jusqu'au point en regard avec la zone auditivo-psychique. Fin de citation. Donc là, on reprend la première citation. Le neurochirurgien fore dans le crâne d'Antoine 5 trous de trépan et découpe un volet osseux. Il ouvre les enveloppes méningées et repère sur la surface du cerveau les sillons qui délimitent la zone incriminée. Narquois, le chirurgien, remarque qu'Antoine, qui a parlé normalement pendant toute la durée de l'intervention, ne présente à la fin aucun des troubles du langage ou des troubles moteurs promis, mais a seulement une légère asymétrie faciale et une gêne à reconnaître, sans le voir, un objet placé dans sa main droite alors qu'il l'identifie dans sa main gauche. 5 jours après l'intervention, les résultats sont moins brillants. Antoine est paralysé du côté droit et est aphasique. Malgré l'absence de résultats démonstratifs, il paraît intéressant de pratiquer une intervention clinique de l'autre côté. 10 jours plus tard, il ouvre le crâne de l'autre côté. 3 ans plus tard, en 1950, le médecin écrit à Augustine, la sœur restée au pays. « Je serais heureux de vous voir au sujet de votre frère. Son état mental est stabilisé. Il serait indispensable que nous prenions une décision à son sujet, soit pour une sortie, soit pour un passage dans un autre service. » Pendant de longues années, il va survivre dans un coin du pavillon, la bouche pendante, bavant, avalant difficilement ses aliments, baragouinant des mots déformés. Donc ça, c'est la fin de la citation, donc tirée de du livre de Jacques Hoffmann, La consommation. Alors, je reprends donc cet extrait du livre de Philippe Pignard, Les malheurs des psys, et qui parle plus particulièrement de l'histoire des lobotomies en France. Combien de patients ont-ils été lobotomisés en France? On ne le sait pas. Aucune enquête n'a été réalisée. On préfère ne pas le savoir. Certains historiens considèrent que 100 000 patients l'ont été dans le monde, dont à peu près la moitié aux États-Unis entre 1945 et 1954. On peut donc penser qu'il y a eu 50 000 opérations en Europe. Peut-on faire l'hypothèse qu'il y en a eu au moins 10 000 en France, où le médecin portugais Egas Moniz, leur initiateur et leur théoricien, était considéré comme un grand scientifique? Là, il y a une petite note sur Egas Moniz. En 1936, Egas Moniz a reçu 4 balles de revolver d'un patient en colère. Entre parenthèses, il n'avait pas été lobotomisé, ce qui mit fin à sa carrière de praticien, mais non pas de précurseur célébré. Puisque beaucoup plus tard, en 1949, il a obtenu le prix Nobel. Oui, je reprends. C'est en France, le 3 mars 1936, à l'Académie de médecine, qu'il fait sa communication Princeps sur les 20 premiers patients opérés, et c'est aussi en France qu'elle est publiée. C'est encore en France que l'on fabrique les premiers leucotomes qui permettent d'opérer les patients et qui seront exportés aux États-Unis. On sait que des expériences sont immédiatement tentées en Roumanie, en Italie, au Brésil, à Cuba. Pourtant, dans le gros volume collectif « Nouvelle histoire de la psychiatrie », une seule ligne est consacrée aux lobotomies. Citation, en 1945, l'arsenal thérapeutique n'est pas différent de ce qu'il était avant la guerre. Les thérapeutiques biologiques, dont Wagner von Jauregg, Manfred Sackel, Hugo Serletti furent les promoteurs, ont bien modifié le pronostic de certaines psychoses, mais n'ont pas réussi à secouer la stagnation du monde asilaire. Pas plus, d'ailleurs, que la psychochirurgie qui connaît une certaine vogue autour des années 49-50. Donc, c'est une citation tirée du livre donc d'Étienne Tria, Une histoire de la psychiatrie au XXe siècle. Ce texte étant une partie de l'ouvrage, le fameux ouvrage collectif, là, toujours de Jacques, dirigé par Jacques Postel et Claude Quettel, Nouvelle histoire de la psychiatrie. Je m'embrouille un peu, excusez-moi. Donc en fait, on voit dans cette citation une seule ligne pour parler de l'expérience des lobotomies. C'est quand même un peu léger, quoi. Bon, ça. Les étudiants en psychiatrie qui utiliseront ce livre de référence n'en sauront pas plus. Rares sont les auteurs comme Jean Garabet qui donnent à cet épisode toute la place qu'il mérite. Note en particulier dans l'ouvrage La schizophrénie, un siècle pour comprendre, donc aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, c'est un ouvrage de 2003. Jean Garabet précise clairement, je cite, ses travaux valurent à Egas Moniz le prix Nobel de médecine en 1949. C'est en effet surtout après la guerre que cette méthode fut utilisée dans les pays européens. Voilà, c'est une précision très 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 importante dans ce qu'essaie de mettre en évidence Philippe Pignard. C'est surtout après la guerre que cette méthode fut utilisée dans les pays européens. Les historiens américains ont fait preuve de plus de courage que la plupart des auteurs français. L'historien Jacques Pressman a consacré de longues années à dépouiller les archives d'hôpitaux psychiatriques américains. Il a montré que les lobotomies n'étaient pas une pratique périphérique, entre guillemets, mais qu'elles étaient au cœur même de la médecine moderne. Jack L. Alors là, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Jack L. Haye a écrit une biographie de Walter Freeman, le pape américain de la lobotomie, qui parcourait les États-Unis dans les années 50 dans un autocar équipé pour pratiquer des lobotomies en série, et qui se décrivait lui-même comme un chasseur de tête.
En voilà un qui n'avait pas honte.
Non, vraiment pas. C'est assez hallucinant, quoi. Dans History of Psychiatry, Edward Shorter consacre un long passage à la psychochirurgie. L'histoire des lobotomies commence avant la guerre, mais ce ne sont alors que des préparatifs expérimentaux, quelques dizaines de patients, essentiellement au Portugal et aux États-Unis, de ce qui s'imposera comme une pratique massive seulement après la guerre. Chapitre suivant, du laboratoire à la clinique, naissance d'un modèle. En 1935, au congrès de neurologie de Londres, après un rapport de deux chercheurs américains, Carl Lil Jacobson et John Fulton de l'université de Yale, qui rapportaient les expérimentations de chirurgie cérébrale sur deux chimpanzés, Egas Moniz prend la parole. Si enlever le lobe frontal du cerveau d'un animal empêche la survenue chez lui d'une névrose expérimentale et élimine les comportements de frustration, pourquoi ne pourrait-on pas supprimer les états d'anxiété chez l'homme par des moyens chirurgicaux? Ainsi naît l'idée des lobotomies ou locotomies, comme Egas Moniz préfère les appeler, une pratique née dans le laboratoire d'expérimentation sur des modèles animaux doit pouvoir être transférée en clinique humaine. La méthode va également s'appuyer sur les travaux du neurologue français Henri Claude. Il s'agit de sectionner les connexions neuronales dans la région préfrontale, de couper les connexions entre les lobes frontaux et le reste du cerveau. On pense ainsi annihiler les émotions qui perturbent le comportement du patient. Il faut bien remarquer que c'est l'idéal même de la médecine scientifique naissante qui est ici à l'œuvre. Modèle animal de laboratoire, opération déduite d'une théorie du fonctionnement du cerveau. Après la guerre, la méthode va évoluer aux États-Unis pour que les lobotomies puissent être réalisées plus rapidement en ambulatoire. En 1946, Walter Freeman réalise à Washington la première lobotomie transorbitale. Plus besoin de faire des trous dans la boîte crânienne. On soulève les paupières et on enfonce un leucotome dans le cerveau. Cela peut se faire à la chaîne, sans salle d'opération et sans précautions antiseptiques particulières. La lobotomie sera réalisée avec un pic à glace de série avant que l'on ne mette au point l'orbitoclaste, un outil spécialement conçu pour donner plus de force aux gestes du psychiatre. Les psychiatres peuvent alors réaliser l'opération sans avoir besoin de faire appel aux neurochirurgiens, lesquels se montrent de plus en plus sceptiques sur les opérations qui leur semblent réalisées en aveugle et qui ont aussi l'impression qu'on est en train de marcher sur leur plate-bande. Reste le problème de l'anesthésie. Il n'y a pas plus d'anesthésistes que de salles d'opération dans les hôpitaux psychiatriques. Mais il se trouve que les psychiatres sont familiers d'une méthode qui permet de plonger les patients dans le coma, les électrochocs. Les lobotomies transorbitales vont donc s'accompagner systématiquement de l'administration préopératoire d'électrochocs. Les conditions sont désormais réunies pour que les lobotomies deviennent une pratique de masse. Leur principal promoteur, Walter Freeman, réussira à opérer plus de 110 patients par semaine. La nouvelle opération ne dure pas plus de 7 minutes. Freeman y gagnera le surnom de Henry Ford de la psychiatrie, en référence aux techniques fordiennes qui ont permis d'augmenter les cadences de travail. Ah, pas de commentaire, pas de commentaire. Les opérateurs peuvent être formés à la technique en quelques heures. La méthode se diversifie au fur et à mesure de son adoption par des équipes psychiatriques différentes. Ainsi, à Boston, on aspire des morceaux de cerveau avec un aspirateur. Au Canada, on pratique la gyrectomie, qui consiste à enlever certaines parties des structures frontales du cerveau. Plus les lobotomies gagnent en reconnaissance sociale, et plus les psychiatres font preuve d'imagination. On détruit des parties du cerveau en les congelant, en les brûlant, ou par radioactivité, ou avec des ultrasons. Mais il ne faudrait pas croire naïvement que ces opérations qui nous semblent, 50 ans plus tard, si barbares, ne donnent pas de résultats. La solution est trouvée pour désengorger des hôpitaux psychiatriques de plus en plus submergés de patients. Les lobotomies connaissent alors une véritable explosion. On estime que la moitié des hôpitaux psychiatriques américains adoptent adoptent cette technique. Les hôpitaux qui ont en charge les anciens combattants adoptent également la technique des lobotomies et en pratiquent jusqu'à 48 par mois. Ce sont des hôpitaux de référence disposant d'importants moyens et des meilleurs médecins. En Angleterre, un seul psychiatre, Willie McKissock, réussit à réaliser à Londres plus de 500 lobotomies pour la seule année 46. La méthode s'étend dans le monde entier jusqu'au Japon et en Nouvelle-Zélande. Dans les hôpitaux américains, les lobotomies sont souvent décrites comme le point culminant d'une série de thérapeutiques administrées successivement. D'abord les électrochocs, puis chez les patients non améliorés, un coma insulinique, cure de Sakel, des doses croissantes d'insuline sont administrées jusqu'au coma, 40 comas successifs sont réalisés, 6 jours par semaine. Enfin bon, là, les chiffres varient selon les pratiques. Hein. Chez les patients toujours non amélioré, on provoque des crises d'épilepsie avec du cardiazole. Enfin, les patients sont lobotomisés parfois à plusieurs reprises. Un psychiatre, Harry Salomon, expliquait que si cette progression de thérapeutique était appliquée systématiquement, 95% des patients pourraient rentrer chez eux. On commence aussi à penser que ce traitement ne doit pas être réservé à des patients ayant déjà un long parcours psychiatrique, mais que pour augmenter les chances de succès, il doit être prescrit le plus tôt possible. Ça me rappelle un autre, d'autres circonstances dans lesquelles la même recommandation est énoncée de prescrire le plus tôt possible. Enfin bon, je reprends. Freeman, toujours à l'avant-garde, va même jusqu'à écrire que les lobotomies doivent devenir un traitement de première intention. Les lobotomies sont-elles efficaces ? Certainement si on les juge à la possibilité de calmer les patients, ce qui permet de les remettre à la charge de leur famille. La réinsertion devient le seul critère de jugement. Stabiliser, tranquilliser, réinsérer sont les mots qui sont employés par tous les acteurs de la psychochirurgie. L'efficacité dépend des critères que l'on utilise pour juger de l'état des patients. L'historien Edward Shorter rappelle ainsi que, je cite, « Si les lobotomies tranquillisent les patients agités, elles les privent du même coup de toute capacité sociale. » Fin de citation. Mais on peut décider de ne mesurer que l'agitation et l'agressivité et ne donner aucune place au second critère. Des voix s'élèvent toutefois pour dénoncer d'effrayants effets secondaires, entre guillemets. Des décès surviennent après hémorragie ou infection. Des patients sont transformés en légumes ou deviennent hyperactifs, y compris sexuellement. D'autres perdent le contrôle de leur sphincter ou ne savent plus manger. Certains patients deviennent boulimiques, ils ne peuvent s'arrêter de manger et sont obligés de vomir régulièrement. D'autres encore font des crises d'épilepsie, souffrent de paralysie, perdent la vue, etc. Face à ces critiques, les partisans de la lobotomie font déjà des statistiques qui mettent en avant le nombre de patients qui ont pu rentrer chez eux à la suite de l'opération. On ne dispose alors pas d'autres types de tests qui permettraient de juger de l'amélioration psychologique d'un patient.
1949, un prix Nobel de médecine pour les lobotomies. Le traitement s'adresse prioritairement aux patients que les équipes hospitalières n'arrivent pas à gérer. En dernier ressort, entre guillemets, pour reprendre le titre du livre de Jack Pressman. Indépendamment du diagnostic psychiatrique officiel. Ces patients ne sont donc pas nécessairement atteints des pathologies les plus graves du point de vue psychopathologique. Les malades mentaux ne sont plus seulement ceux dont le psychisme est pathologique, mais tous ceux qui ont des comportements perturbateurs. La mission de la nouvelle psychiatrie est d'intervenir à chaque fois qu'une personne mal adaptée trouble l'ordre social. Edward Shorter, A History of Psychiatry. Parmi les troubles les plus fréquemment cités dans les rapports médicaux, on trouve la dépression anxieuse. La note dit qu'il s'agit de ce que les Américains appellent agitated depression, une forme de dépression qui s'accompagne d'anxiété, d'acathisie, d'insomnie, de colère, d'irritabilité, de tentative de suicide. On pourrait en français parler d'état mixte. Ah, donc on trouve la dépression anxieuse, les troubles obsessionnels compulsifs, mais aussi l'alcoolisme ou l'hypocondrie et même l'homosexualité quand elle est accompagnée d'anxiété. C'est la diversité qui domine. Le fil conducteur n'est pas une pathologie psychiatrique particulière. À l'inverse, quand une lobotomie semble atténuer certains symptômes chez un patient, c'est ce critère qui est retenu pour sélectionner les patients suivants. Si au départ on a pensé utiliser la lobotomie comme un traitement des hallucinations schizophréniques, les déceptions ont été importantes en la matière. Selon Egas Moniz, elle présente néanmoins l'avantage de rendre les patients schizophrènes moins agités et volatiles, en diminuant la réponse émotionnelle. On imaginera alors deux types de lobotomie, des lobotomies minimales, entre guillemets, pour les patients essentiellement anxieux, et des lobotomies radicales pour les patients souffrant d'hallucinations ou pour ceux chez qui la première forme d'opération n'avait pas donné les résultats espérés. Si les symptômes ne disparaissent pas, c'est que l'on n'a pas sectionné suffisamment les fibres nerveuses. On ne peut rien comprendre à cet étrange mélange d'indications sans faire appel à la notion de sous-diagnostic, plus social que médical, qui nous avait déjà paru expliquer l'évolution des pratiques psychiatriques. En effet, la lobotomie se justifie d'abord par des raisons transnosologiques, voire... il y a une parenthèse. Selon Freeman, c'est la composante émotionnelle du trouble mental qui doit être améliorée. On la retrouve chez des patients déprimés et anxieux, des schizophrènes, des obsessionnels et même chez les hystériques. Si la thérapeutique modère les émotions, qui s'étonnera alors d'apprendre que les patients lobotomisés, dans 2 cas sur 3, étaient des femmes. Le remède est radical contre toutes les formes d'agitation et d'hyperactivité. Que celles-ci surviennent au cours d'un état mélancolique, d'une psychose maniaco-dépressive ou d'un état réactionnel. La lobotomie, explique Jack L. High, était tentée sur un large éventail de patients pour des raisons extrêmement variées et parfois même opposées, y compris dans la même institution et chez des patients pris en charge par le même médecin. Walter Freeman a même fini par considérer que les personnes chez qui la lobotomie était le plus justifiée étaient celles qui la refusaient de manière véhémente et qui devaient être traînées de force jusqu'au lieu de l'opération alors qu'elles criaient et se débattaient. La résistance était la preuve du bien fondé de la thérapeutique. Face à ces pratiques, le silence des psychanalystes a été assourdissant. Certains d'entre eux aux États-Unis y ont même eu recours. Le débat ne peut pas être réduit à un désaccord entre écoles thérapeutiques. Will Menninger lui-même n'était pas opposé aux thérapies somatiques. Il a envoyé des patients subir des électrochocs. Dans l'équipe même de la clinique Menninger, lieu mythique de la psychiatrie américaine, des neurochirurgiens faisaient des lobotomies. Ça, c'est une citation de Jacques Pressman. La méthode a reçu le soutien d'Adolphe Meyer, pourtant considéré aujourd'hui comme le père de la psychiatrie dynamique américaine. Les principaux acteurs de la psychiatrie sont conquis. Freeman est invité en 1946 par l'Académie royale de médecine britannique. Il se rend en France en 1948 et fait une démonstration de lobotomie transorbitale qui emporte un grand succès dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne, non identifié mais qui était dirigé par le docteur Tison, où il opère la fille du consul américain à Pékin. Il fera encore une démonstration publique à Paris au cours du 4e congrès international de neurologie. Il reviendra encore à Paris en 1950 pour rencontrer le psychiatre Jean Delay. Enfin, un premier congrès international de psychochirurgie est organisé au Portugal en août 1948, auquel participe une délégation française. Seule l'URSS interdira ce type de traitement peu après le congrès, estimant qu'on ne soigne pas, je cite, « transformant un malade mental en idiot ». De retour dans leur pays, impressionnés par ce qu'ils avaient entendu au congrès, des psychiatres brésiliens et portugais demandèrent au comité de sélection du prix Nobel de médecine de récompenser Egas Moniz. Il reçut ce prix dès 1949 pour son invention du traitement chirurgical des maladies mentales et l'élaboration des concepts psychophysiologiques qui l'ont rendu possible. L'épisode des lobotomies n'est donc pas une malheureuse parenthèse dans l'histoire de la psychiatrie. Pour Jack Pressman, il faudrait même y voir l'acte de naissance du traitement moderne des maladies mentales. citation, quand la chlorpromazine, le premier neuroleptique, a été introduite, les psychiatres des hôpitaux ont jugé et décrit ses effets avec les mots qu'ils avaient appris pour parler des lobotomies. Réduction notable de comportements dérangeants, diminution des destructions à l'hôpital, amélioration de la capacité à travailler, nouvelle atmosphère thérapeutique, augmentation de l'espoir de guérison chez les patients et les familles, meilleure relation avec l'environnement. À l'époque, le laboratoire américain qui commercialise la chlorpromazine la présente en effet dans ses documents publicitaires comme la lobotomie chimique. Loin d'être une aberration, cet épisode est sans doute inaugural des concepts qui resurgissent aujourd'hui de l'opposition gérable-ingérable à l'utilisation transnosologique des thérapeutiques, ce qui implique par exemple de prescrire des neuroleptiques en dehors des indications classiques de schizophrénie pour calmer des comportements jugés socialement agressifs ou perturbateurs. Il marque aussi la naissance du nouveau rapport entre le laboratoire de recherche, expérience sur des animaux, ici des chimpanzés, et la thérapeutique, modèle dont on n'est toujours pas sorti un demi-siècle plus tard, comme l'illustrent les modes actuels de mise au point des médicaments. C'est enfin la naissance des outils méthodologiques qui vont permettre de tester les thérapeutiques psychiatriques. Car, avec les lobotomies, des équipes de psychologues spécialistes de la mise au point des tests d'évaluation commencent à travailler avec des psychiatres pour mettre au point de nouvelles échelles qui permettront de décider ce qu'est une amélioration d'un trouble mental. Jusque-là, ces outils n'existaient pas. Les seules échelles disponibles concernaient la psychologie, entre guillemets, normale. On va désormais mettre au point des batteries de tests et d'outils statistiques adaptés aux personnes atteintes d'un trouble mental, mais aussi de manière indissociable au type de traitement qui leur est prescrit, comme l'explique Jacques Pressman. Les tests psychométriques existants étaient inutiles car ils avaient été conçus avant que les investigateurs ne soient confrontés à des patients lobotomisés. Ce que ces instruments saisissaient n'était pas pertinent. Les nouvelles thérapeutiques ont des effets que l'on ne pouvait pas imaginer. Des modifications physiologiques n'induisent pas un fonctionnement de l'organisme seulement altéré, mais restant familier. Elles induisent une véritable transformation qui donne naissance à quelque chose de qualitativement différent, appelant à de nouvelles conceptualisations. L'expérience des lobotomies a fait comprendre aux psychiatres que les traitements expérimentaux créaient la nécessité d'une coévolution des outils, entre parenthèses échelle, que les chercheurs utiliseraient pour évaluer leurs effets et leur donner du sens. Fin de citation. Jack L. High écrit de même. Un des effets durables de l'ère de la psychochirurgie a été la mise en place des techniques d'évaluation pour juger de l'efficacité des lobotomies, mais aussi de nombreux autres traitements psychiatriques. En psychiatrie, les lobotomies ont donc bien été l'équivalent de ce que furent les antibiotiques pour le reste de la médecine, même si beaucoup ont depuis préféré l'oublier. Ce sont ces concepts que l'on trouve au cœur des analyses de l'INSERM de 2002 et 2005. La brutalité avec laquelle ils y étaient à nouveau utilisés a surpris nombre de psychothérapeutes. Mais le silence général porté sur cet épisode des lobotomies, la réécriture de l'histoire à laquelle se sont livrés depuis psychiatres pas très fiers et psychanalystes un peu trop sûrs d'eux, pavait le chemin pour un tel dénouement de silence. Hein, oui. L'autre épisode oublié, l'invention de la chronicité. « Sans les apprentissages, entre guillemets, faits pendant la période des lobotomies, aurait-on mis de la même manière sur le marché en 1952 en France et en 1954 aux États-Unis le premier neuroleptique, la chlorpromazine? Rien n'est moins sûr, car on sait parfaitement que ce sont des cliniciens qui ont repéré empiriquement les effets, entre guillemets, calmants de ce médicament. Et, comme on l'a vu, il n'était pas du tout dans l'intention du laboratoire inventeur de cette molécule, Rhône Poulenc, de commercialiser un médicament dans des indications psychiatriques. La pratique des lobotomies avait en effet déjà profondément modifié le regard médical sur la folie. Ce que l'on cherchait désormais, c'était tout ce qui pouvait calmer les patients dans l'objectif de les faire quitter l'hôpital. On pourrait se dire qu'il en a sans doute finalement toujours été de même. Mais ce serait de la naïveté, car ce fut même exactement l'inverse pendant toute la période qui précède celle des lobotomies. On ne voulait pas que les patients quittent les hôpitaux, comme l'a rappelé Georges Lanthéry-Laura, psychiatre et historien exceptionnel de la psychiatrie, même si son œuvre n'a jamais atteint le grand public. En 1971, il publiait un article très troublant dans la revue d'histoire Annales. Cet article a été ensuite republié sous forme d'un petit livre sous le titre « La chronicité en psychiatrie ». Cet article, puis ce livre, ont été largement ignorés de la communauté psychiatrique, comme s'il provoquait un malaise, il ne fut ni commenté, ni réfuté. L'historien est confronté à une énigme. Pourquoi la notion de chronicité était-elle quasiment absente des manuels de psychiatrie, de sa naissance avec Philippe Pinel, au moment de la Révolution française, jusqu'au dernier tiers de ce 19e siècle? Il se dégage de son œuvre, Philippe Pinel, un certain optimisme, et nous avons du mal à comprendre comment, en l'absence de toute thérapeutique à nos yeux efficace, il parle assez souvent de la guérison de ses patients. Nous pourrions faire des remarques semblables sur les auteurs de la génération suivante, par exemple chez Esquirol. Il use peu de l'épithète chronique. Fin de citation. Après avoir écarté plusieurs explications insuffisantes, Lanthéry-Laura remarque que la notion de chronicité se répand jusqu'à occuper 80% de la place dans les manuels et voir fleurir une série de nouvelles entités pathologiques au moment où la décision prise en 1838 de construire un hôpital psychiatrique dans chaque département est devenue une réalité. En 1873, l'inspection générale dénombre 104 établissements correspondant à l'esprit de la loi de 1838. On a construit de grands hôpitaux à la campagne pour que leurs résidents puissent cultiver les terres. Dans le même temps, l'optimisme thérapeutique est abandonné au profit de la théorie de la dégénérescence. Selon celle-ci, tout serait dans l'hérédité. La notion de dégénérescence mentale illustre aussi l'introduction théorique du concept de chronicité. Elle revient à admettre qu'une partie assez importante des troubles mentaux qui, en clinique, iraient de simples originalités de caractère jusqu'à l'idiotie profonde, représente les effets les plus visibles d'un processus morbide qui atteint une lignée et que, de génération en génération, fait se dérouler la suite des manifestations pathologiques de plus en plus graves. Chaque génération souffrant de troubles plus accusés que celle d'avant et moins lourds que celle d'après. Le destin de chaque patient apparaît, la plupart du temps, comme irrémédiablement chronique. Ces hôpitaux sont de véritables entreprises agricoles. Leur idéal est de vivre en économie fermée afin de coûter le moins cher possible à la collectivité. Les conseils généraux estiment que l'établissement psychiatrique doit vivre de l'exploitation de ses produits. Les rapports avec l'extérieur ressortissent le plus souvent du troc. La taille des asiles et le nombre de patients dépendant du calcul du coût de revient. Ce sont les malades indigents qui commencent à avoir la durée d'hospitalisation la plus longue. Selon Lanthéry-Laura, ce modèle rappelle les grandes plantations du sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Culture extensive, productivité faible, main-d'œuvre peu qualifiée, mais quasi inépuisable et de coûts presque nuls. Et l'antérilora de conclure, je cite, « Or, une telle entreprise ne peut fonctionner que si la main-d'œuvre ne devient jamais rare, donc si les malades restent assez longtemps, d'autant plus qu'ils ont acquis un minimum de technicité et qu'au-dessous d'une certaine durée de séjour, elle n'est pas rentable pour l'établissement. » La longue durée moyenne de séjour se manifeste alors comme une donnée particulière à cette branche de la médecine, mais d'elle-même aussi naturelle que les complications bronchiques de la rougeole ou néphrétiques de la scarlatine, alors qu'elles résultent d'abord des conditions propres à l'observation. Pour être plus exact, reconnaissons que l'on prend alors les conditions de possibilité de la vie économique des établissements pour des données particulière à la pathologie mentale. La majorité des patients se trouvent observés dans une institution qui ne peut durer que s'ils restent longtemps hospitalisés. Toujours l'antérilora. Ce modèle n'a plus de possibilité d'exister à partir de la fin des années 1930. Et le développement du capitalisme. La préoccupation devient alors inverse. Il faut toujours, pour des raisons de coût, vider les hôpitaux psychiatriques. Les diagnostics et les thérapeutiques suivront. Retour de l'optimisme, arrivée des lobotomies. Fin de notre extrait, de l'extrait qu'on voulait vous lire de ce livre de Philippe Pignard. C'est quoi déjà le titre ?
Malheur des psys, psychotropes et médicalisation du social. Livre paru, de parution 2006. Donc, ça montre... c'est très intéressant parce que ça montre que... Bon, encore en 2006, concernant la psychiatrie, l'histoire de la psychiatrie, il y avait encore des travaux intéressants à faire, même si là, bon, ça concerne principalement un point particulier, donc celui des pratiques des lobotomies. Eh bien, il y avait encore donc à l'époque un travail. Non pas de réécriture, comme le dit Pignard, mais carrément d'écriture de l'histoire de la psychiatrie à faire, et concernant un point non négligeable qui a plusieurs conséquences, notamment sur l'interprétation qu'on peut faire des théories préexistantes, enfin des histoires, des développements historiques préexistants concernant la psychiatrie. On voit bien que là, le travail de Pignard portant précisément sur les lobotomies permet de réinterroger ce qu'on appelle, en ce qui nous concerne, on est tout à fait dans cette vision-là des choses, le mythe de la psychothérapie institutionnelle et toute la légende qui s'est construite, qui a été alimentée par divers courants, toute la légende qui s'est construite sur la psychothérapie institutionnelle. Et donc,
il n'y avait plus que ça, en fait, après la guerre. Ça, c'était la psychothérapie institutionnelle qui avait triomphé.
Oui, mais c'est très important parce que C'est un travail, donc encore une fois, celui opéré par Pignard sur le point précis des lobotomies qui permet donc de se rapprocher de la réalité historique de la pratique de la psychiatrie et donc d'éviter certaines interprétations qui sont purement imaginaires. Et qui, Pignard ne fait qu'effleurer cet aspect de la question, mais les interprétations qu'on peut faire sur des données objectives fausses, en fait, ont des conséquences jusqu'à maintenant. Jusque dans la façon de non seulement d'analyser actuellement les pratiques psychiatriques les pratiques psychiatriques en cours
je sais plus ce que je voulais sur la question du but à atteindre quoi
c'est oui peu... voilà ça ça inclut divers éléments et aussi celle centrale, tu as tout à fait raison de le dire, qui concerne le but à atteindre et les stratégies, si on peut parler ainsi, les stratégies profondes sous-jacentes à la psychiatrie. On voit comment sont mises en place certaines choses qui perdurent actuellement. Et ça, c'est un axe central de l'analyse que à l'entonnoir on essaie de faire par rapport aux pratiques psychiatriques. Donc évidemment tout ce qui peut venir alimenter ce travail de réflexion est le bienvenu. Et cet élément-là, donc développé par Philippe Pignard en 2006, est un élément précieux parmi d'autres. Bon, à un certain moment, on ne va pas reprendre dans le texte, mais il fait référence à comment certains éléments qui sont purement imaginaires, qui développent un mythe, notamment le mythe de la naissance et du développement de la psychothérapie institutionnelle au sortir de la Seconde Guerre, montre comment ça a des répercussions sur l'analyse même de la réalité actuelle. Voilà.
Bien, on va en finir avec ça. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Salut à tous, toutes.
autour des feux de pneus, dans tout ce malheur, on était un peu heureux. Les barrières entre certains se fendillaient, il y avait même des envies, on le sentait. Il y a même des gens qui jusque-là ne se parlaient jamais, mais là, se souriaient, papotaient. Quarantième jour de grève, on a senti que le vent tournait, qu'il n'y aurait pas de trêve, qu'on ne gagnerait jamais. Quarantième jour de grève, les CRS tapaient en rythme les boucliers. Il fallait que la grève s'achève en haut lieu qu'on avait tranché. J'en ai pris plein la gueule, Madame Thérèse pleurait. On se sentait tout seul, l'avenir barré d'un trait. Compte tenu de la législation en cours, le dépôt de bilan de cette société a été confirmé ce jeudi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie.
Compte tenu de la législation en cours, le dépôt de bilan de cette société est confirmé auprès de la Chambre.
Sait pas où s'en va le ruisseau, Je passe mes jours au jour le jour près du courant, comme un galet sur le bord de l'eau. On n'a jamais vu d'été si beau. Les foins sont coupés, les blés sont hauts. Des parfums paresseux passent portés par le vent. On n'a jamais vu d'été si beau. Celle que j'aime ne va pas tarder, elle va revenir toute bronzée. Il ne fait surtout pas un temps à être impatient. Dans la chaleur, les chiens sont couchés et y'a rien qui peut les déranger. Il fait calme et bleu et ça devrait durer longtemps. Dans la chaleur, les chiens sont couchés, y'a pas un nuage à l'horizon. Toutes les portes de la maison sont ouvertes à tous ceux qui volent et va bourdonnant. Y a pas un nuage à l'horizon. Dans le ciel là-haut passe un avion, il va vers Paris ou vers London. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à bouger tout le temps? Comme un galet sur le bord de l'eau, qui ne sait pas où s'en va le ruisseau, je passe mes jours au jour le jour près du courant, comme un galet sur le bord de l'eau.
Radio Libertaire 89.4.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la
lèche frite. À aucun prix, moi, je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue. Mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins je te dispense. Qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Les langues nouvelles. je cours vers eux tout en criant. Ils passent sans me voir, détachés sur le ciel d'argent. Ça, un homme au regard embrassé, fier comme un prince des Révan, mettant une rose embaumée, et il rejoint la caravane.
Thank you. 71 89 40, ben toujours avec la belle voix de Tita Nzebi sur Radio Liberté, la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 75 011, chez Métro République ou Fille du Calvaire, et c'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Olivier Maillard.
Ça commence
et,
bien.
Et bien sûr, ça va être comme ça. Et puis bien sûr, la technique, Monique, je vous la présente. Voilà, sinon, sans elle, rien n'est possible. Hein. Voilà. Alors, poétique de Tom Cruise. Alors, vous dites Cruise, comment vous dites-vous?
Je dirais Cruise.
Cruise, d'accord.
J'ai fait sans certitude.
J'ai fait un petit sondage, et puis c'est un peu variable. C'est aux éditions Marest.
Tout à fait.
Alors, éditions Marest, c'est des beaux livres.
Ah oui, je trouve aussi.
Vous aussi, esthétiquement.
C'est le deuxième livre que je fais dans cette maison. Et effectivement, c'est donc un éditeur spécialisé dans les ouvrages sur le cinéma, même s'il n'y a pas que ça, et qui effectivement soigne l'apparence de ses livres.
C'est un bel objet. Il avait fait un livre avec Jacques Coda, Caméra Gréco, qui était aussi très réussi, et Jacques Coda était tellement content, c'est un conseil que je vous donne avant de commencer l'émission, tellement content de l'esthétique de son livre, il s'est fait faire un t-shirt avec la couverture de son livre, et il entait le 11e et le 20e arrondissement, chemise ouverte, avec simplement Caméra Gréco sur la poitrine. Alors je ne sais pas si les chiffres d'affaires de M. Marest sont en hausse depuis, j'en sais absolument rien.
J'y songerai pour Poétique de Tom Cruise. Hein,
essayez, vous me racontez après.
Très bien.
D'accord. Donc, c'est vous qui avez choisi la couverture?
Oui, on en a discuté avec Pierre-Julien Marest, donc mon éditeur, et je voulais une image de film, de toute façon, avec évidemment Tom Cruise, et on hésitait, on voulait quelque chose qui mette en scène son corps dans un de ses exploits un peu improbables. Et j'ai pu hésiter avec d'autres. Il y avait notamment la fameuse image, mais qui me semblait trop employée dans le premier Mission Impossible, quand il descend dans la salle des ordinateurs accroché à un fil. Mais il me semblait qu'on l'avait déjà beaucoup vue, cette image.
Plus
en
connu,
fait.
Elle est voilà. Beaucoup plus connue. Hein.
Et donc celle-ci était peut-être allée dans un autre Mission Impossible, dans le quatrième, mais elle témoigne aussi du jeu à la fois avec le spectaculaire, le burlesque, l'improbable, parce qu'on se demande comment il tient là où il tient.
On va en parler, Olivier. Alors, Olivier, avant de revenir à la couverture, là, petite parenthèse, j'ai reçu des... Bien sûr, je m'y attendais un petit peu des mails lorsque j'ai programmé l'émission, en me disant, est-ce que tu t'es inscrit à l'église de Scientologie? Alors, je tiens à dire que Radio Libertaire n'est pas financé par l'église de Scientologie, absolument pas.
Moi non plus, voilà. Malheureusement.
Et c'est marrant parce que j'ai reçu en même temps, le même jour, par plusieurs canaux, comme quoi la Raël, vous voyez le mouvement Raël, se réclamait du surréaliste.
D'accord.
Voilà, on en est là. Alors, on va finir que, je sais pas, les témoins de Jéhovah ou des choses comme ça. On est dans une pagaille intellectuelle très grande. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, quand j'ai commencé le projet du livre sur la proposition de mon éditeur, Je voulais faire quelque chose peut-être sous une forme plus humoristique et en posant la question justement du côté sectaire. Est-ce que c'est un homme Dieu? Est-ce qu'il vient de l'espace, etc. Et donc je m'étais dit, allons, parce que je ne connaissais pas grand-chose à la scientologie, soyons honnêtes, allons rendre visite à ces gens. Donc je suis allé, ils sont vers Sainte-Marie-des-Batignolles, là, dans le coin du 17e. Il y a un temple de l'église de scientologie. Ça ressemble plutôt à un peu à une agence de